Cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jeudard le 28 novembre 1991.
L'éthique religieuse doit nous aider à comprendre cette dimension radicale de l'homme. Animal religieux. Comprendre que l'homme est fait pour Dieu. Alors, je suis entièrement d'accord que dans le climat que nous vivons, on ne voit plus du tout ce que c'est. Je me souviens, c'était sitôt la guerre, un ami qui revenait de captivité, donc il avait tous les droits. Enseigner à la Sorbonne. Que disent les philosophes sur Dieu? Alors tout le groupe marxiste s'est opposé violemment. Alors il leur a dit, vous ne pouvez rien comprendre à la philosophie européenne si vous ne regardez pas ce qu'est Dieu selon la grande tradition philosophique européenne. Parce que vous êtes ou pour ou contre. Alors quand vous êtes contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas très intelligent. Quand vous êtes contre quelqu'un que vous connaissez, ça peut être intelligent. Mais être contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas très intelligent, c'est pas très fort. Alors il dit ça, tout secoué, comme ça. Et là, il dit, vous Marx, dites-moi ce que c'est que Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous êtes en face d'un a priori. Cet a priori aujourd'hui se généralise à cause du positivisme, qui est pire que le marxisme. Il faut comprendre que le positivisme est pire que le marxisme. Les marxistes ont encore bon cœur, les positivistes n'ont plus de cœur. Alors c'est effrayant. C'est la science qui prend tout. Et ce positivisme envahit tout. Le respect de la vie religieuse, puisqu'on m'a donné ça comme exemple tout à l'heure, montre que de fait, le point de vue de la laïcité est devenu le climat normal aujourd'hui. Et si vous manifestez que vous êtes religieux, sans aucune agressivité, que vous l'êtes, en sachant ce que vous faites, on l'accepte pas. Parce qu'on dit, c'est aller contre la liberté. Tandis que si vous prenez de bonnes bouteilles de Bourgogne, c'est pas aller contre la liberté. Si vous allez en auto, avec une auto splendide, c'est pas contre la liberté. La vie religieuse est contre. Alors que c'est un signe de pauvreté. C'est important, hein. Oui, nous faisons cette éthique religieuse dans le climat d'aujourd'hui. En cherchant la vérité. Donc, vous êtes capable de répondre à toutes les questions. Elles sont nombreuses. C'est pour ça que là, vous, en faisant dans le cours et en suivant le cours, n'hésitez pas de noter toutes vos objections ou toutes les objections que vous avez entendues et auxquelles vous n'avez pas répondu. Si vous ne cherchez pas à y répondre durant ce cours, vous resterez toute votre vie comme quelqu'un qui aura peur d'être un être religieux. Alors que nous devons, en face de cette Europe, de cette France qui coule, je ne sais pas à quelle vitesse, mais assez rapidement, qui coule, en raison de cette laïcité, hein, en raison de ce positivisme, qui va beaucoup plus loin que le marxisme. Hein. N'oubliez pas ce que Lénine a dit. Le marxisme doit évoluer en fonction du progrès des sciences. science mesure le marxisme, mais pas l'homme. Alors, c'est intéressant de savoir ça, parce que ça montre que le positivisme est bien plus radical que le marxisme. Et on est en plein positivisme. Et la laïcité repose au positivisme. Parce que jamais la science n'atteindra le religieux. Il faut être naïf pour croire que la science va découvrir Dieu. Il faut être très naïf. La science va peut-être avoir une idée d'une loi suprême. Mais c'est une loi. Vous savez ce que disait Braunschweig, ce néo-hégélien. C'est pour moi Dieu, c'est une équation différentielle. Ça, c'est tout à fait le positivisme dans ce qu'il a de plus parfait. Dieu, une équation différentielle. Oui, c'est assez particulier. Mais ça a été dit, et ça a été proclamé par quelqu'un d'intelligent, par un philosophe, et enseigné par le fait même. Mais alors, on vit ce positivisme de manière très très forte. On vit cette laïcité. C'est pour cela que vous devez être très attentif à ce cours d'éthique religieuse. Parce que je sais qu'en le faisant, j'essaie de mettre une mine en dessous de tous les a priori que vous avez. Hein. Plus ou moins explicite, plus ou moins, mais que vous avez. Et si nous ne faisions pas d'éthique religieuse, vous resteriez dans ces a priori. C'est ça qui est terrible. Alors, l'éthique religieuse, je vous l'ai dit, hein, présuppose une métaphysique. C'est pour ça qu'elle est si rare. Parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Une vraie métaphysique qui permet de découvrir l'existence de l'être premier. Si mon éthique religieuse ne repose que sur les traditions religieuses, mon éthique religieuse ne sera pas philosophique. Elle sera pour les gens bien. Et les gens bien, on en a soupé. C'est vrai, c'est pas ça. On veut des gens intelligents aujourd'hui. Mais intelligents avec un cœur qui se développe en fonction même de leur recherche de la vérité. C'est une recherche de vérité. Oui, c'est capital de comprendre ça. De comprendre que le philosophe, ayant découvert l'existence de Dieu, doit comprendre que cette découverte engage tout l'homme. Et l'engage comment ? L'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu est mon créateur. Le créateur de mon âme. Et quand je comprends cela, je comprends que le devoir premier et fondamental de toute ma vie humaine, c'est de reconnaître cette dépendance à l'égard du Dieu créateur. Si je ne reconnais pas cette dépendance volontairement, parce qu'il y a des quantités qui l'ignorent, mais si je ne veux pas la reconnaître, tout est faussé. Mais c'est dans ce sens-là que certains diront, ça fait partie de ces recherches d'aujourd'hui, il n'y a pas d'éthique humaine sans l'éthique religieuse. Il y a un livre qui parle là-dessus. Hein. Je comprends très bien comment ça se dit. On comprend très bien comment ça se dit. Et c'est pas juste. L'homme existe dans ses opérations volontaires d'amour, d'amitié. Avant d'avoir découvert l'existence de Dieu. Et donc il y a une éthique fondamentalement humaine. Mais ce qui est vrai, c'est là qu'il faut bien comprendre, ce qui est vrai, c'est que délibérément, volontairement refusé l'existence de Dieu et refusé une éthique religieuse, fausse tout. Mais c'est pas la même chose du tout, hein. Parce que ça montre qu'il y a là le refus d'une finalité humaine. Si je refuse cette finalité humaine, un refus conscient, je le fais par orgueil. C'est pas drôle de reconnaître l'indépendance à l'égard de quelqu'un qui préexiste avant moi. C'est pas drôle du tout. Aujourd'hui, le grand slogan, c'est que toute dépendance vous aliène. C'est du reste pour ça qu'on a tellement de peine d'entrer dans la vie religieuse. Parce qu'au fond, on n'accepte pas une dépendance. On aime mieux, voyez, avoir ses initiatives et progresser avec ses initiatives. On croit que c'est plus formateur. C'est Nietzsche. La créativité vous forme. Non, la créativité ne vous forme pas du tout. Qu'est-ce qui vous forme? C'est d'être dans la vérité. S'il n'y a pas de vérité fondamentale, vous ne pouvez pas vous former humainement. Vous formez de façon artificielle. Ça donne le change. Ce qui forme, la seule chose qui forme, c'est la recherche de la vérité. Alors ça, ça mûrit notre intelligence. Il n'y a pas de personnalité humaine sans une intelligence qui recherche la vérité. Une intelligence qui refuse de rechercher la vérité fera que la personne humaine ne pourra pas se fermer. C'est comme ça. C'est un fait. C'est que tout amour présuppose l'intelligence. Et que c'est l'intelligence dans sa recherche de la vérité qui seule permet de structurer une personne. Autrement, on ne structure rien du tout. Vous voyez, l'activité comme activité ne forme pas, ne structure pas. Ça, il faut essayer de comprendre d'une façon éthique dans notre auto-éducation. Puisque nous sommes tous appelés à cette auto-éducation. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux qu'il ne nous oblige pas comme il l'a fait pour Saul de Tarse. C'est rare qu'il fait ça, c'est très rare. Il fait ça dans des cas extrêmes. Normalement, il veut notre coopération. Normalement, il veut que nous-mêmes nous comprenions qu'il faut être docile à ses appels et qu'il faut demander constamment d'être dans la vérité. Premier moment de l'éthique religieuse, c'est de reconnaître cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, du Créateur. Reconnaître cette dépendance et l'aimer. S'il n'y a pas un amour à l'égard du Dieu Créateur, Père, qui nous a créés par pure surabondance et dans la lumière, il n'y a pas d'éthique. Je suis contraint, alors comme un prisonnier, comme un esclave. Il n'y a pas d'éthique de l'esclave. Je suis contraint d'obéir. Celui qui est contraint d'obéir, il n'aime pas. Il faut arriver à aimer celui qui est le Créateur et qui est celui qui est source pour moi de vie, d'intelligence et d'amour. D'aimer celui qui est là, à la racine de tout mon être. L'aimer et reconnaître que mon bien, c'est de reconnaître qu'il est mon Créateur. C'est-à-dire qu'il m'a tout donné gratuitement. C'est ce que j'appelle l'adoration. L'adoration, c'est cette prise de conscience éthique, morale, parce que tu es créateur, je peux me remettre volontairement dans cette dépendance à son égard. Oui, l'adoration n'est pas un acte d'obéissance. C'est un acte d'amour. L'obéissance implique l'amour, mais l'obéissance n'est pas un acte d'amour. Tandis que l'adoration est un acte d'amour. J'aime celui qui est cette source fondamentale et première dont je dépends. Dont je dépends radicalement et qui s'impose à moi. Alors on dira pas que ça s'impose à moi, ce n'est plus un acte d'amour. Attention. Reconnaître que quelqu'un est plus grand que moi ne supprime rien du tout à l'amour. Au contraire, fait que je peux me donner à lui en toute sécurité parce qu'il est plus grand que moi. Me donner à un être plus fragile que moi m'empêche de me donner totalement. Tandis qu'au contraire, pouvoir me donner à un être qui ne peut jamais être dans l'erreur, qui est la sagesse même, qui est l'amour, qui est la lumière, me permet de m'appuyer sur lui, de me donner à lui de façon parfaite. C'est pour ça que l'adoration, qui est cet acte volontaire d'amour à l'égard de celui qui est mon créateur, va me libérer. La philosophie de la libération, c'est la philosophie de l'adoration. C'est ça qu'il faudrait faire comprendre à tous ceux qui sont autour de nous. Pouvoir leur dire, puisque vous n'adorez plus, vous êtes esclave. Moi j'adore et je suis libre. Parce que vous dépendez de réalités qui sont inférieures à vous. Vous dépendez de l'argent, de l'économie. Vous dépendez de l'opinion des hommes. Tout homme politique. Vous dépendez de l'opinion des hommes. Et donc vous devez faire des tas de choses qu'au fond de votre cœur, vous éprouvez et vous le faites pour l'opinion des hommes. Vous dépendez de tout le contexte de culture qui est autour de vous. Vous dépendez de vos passions, de vos instincts. L'adoration nous libère parce qu'elle nous permet de nous appuyer sur quelqu'un de plus grand que nous, notre créateur. Et alors, à ce moment-là, elle me permet, et elle me fait comprendre, que Dieu, en créant mon âme spirituelle, veut que je sois capable d'orienter ma vie. De si grand dans l'adoration. Et l'orientation de ma vie première, c'est de reconnaître que Dieu est créateur. C'est pour ça que je dis, dans ce choix de l'adoration, parce qu'il y a un choix d'amour, je me libère de moi-même et de tout mon conditionnement humain. Je sais très bien que je suis conditionné d'une quantité de choses antérieures à cette prise de conscience que j'ai d'adorer Dieu. Mon éducation, mon atavisme, l'opinion des hommes autour de moi. Je suis conditionné par tout ça. C'est la première chose dont je prends conscience. Je suis conditionné par le milieu dans lequel je suis. Vous voyez, combien de temps mettez-vous avant d'être libéré complètement du milieu dans lequel vous êtes? Pas si commode que ça. Le conditionnement du noviciat. Pff, là, ce que c'est lourd. Et être conditionné par le milieu du noviciat, c'est parce que vous êtes esclave de vous-même. On un homme de paix à reconnaître ça. Hein. Alors que si vous faisiez un véritable acte d'adoration, si l'acte d'adoration devenait pour vous ce qu'il y a de principal au point de vue humain, adorer, c'est servir Dieu. Adorer, c'est me mettre en relation vis-à-vis de Dieu. Et c'est le principal. C'est le rendez-vous avec Dieu. Et si votre adoration ponctue vos journées, alors à ce moment-là, progressivement, vous libérez du contexte. Ah oui, je sais bien qu'il y a à côté de moi quelqu'un qui ne m'aime pas beaucoup de sympathie, qui me regarde d'un drôle d'œil, qui me juge toujours selon mes apparences. Je sais bien, nous sommes égal. C'est pas lui qui est ma fin, ma finalité. Alors, je le supporte. Supportante in vitrem. Je supporte. Je suis peut-être ça pour lui aussi, alors. On a un petit compromis. Vous voyez, dans la mesure même où l'on adore, on se libère du contexte familial, du contexte humain dans lequel on vit. C'est, je crois, le premier fruit de l'adoration. Parce que on est en relation directe avec le Créateur. Et en relation directe avec Dieu permet d'être lié à notre source. Et donc, d'aimer avec cette liberté prodigieuse d'un amour premier, pas nécessairement fervent au point de vue sensible, mais volontairement fervent, parce qu'il est premier. C'est le premier amour. Adorer Dieu, c'est le premier amour. C'est l'amour le plus radical. Et c'est pour ça que cette adoration me libère aussi, vous voyez, de ce qu'il pourrait y avoir de tyrannique dans une amitié. Au point de vue humain, c'est très très beau l'amitié. C'est très très grand. Mais il y a toujours un risque d'avoir un ami qui vous coupe. Une amour glace vous prend, vous étreint de manière telle que vous êtes prisonnier. Vous êtes plus petit, pas seulement physiquement, mais moralement, psychologiquement. Alors vous êtes complètement saisi par lui. L'adoration vous libère de la tyrannie, de la passion qui peut exister dans l'amour d'amitié. Et fait que cet amour d'amitié va prendre une modalité beaucoup plus profonde. Voyez pourquoi l'homme, d'une façon générale, pourquoi l'homme a-t-il tellement de peine d'aimer? C'est un fait. On a très peur de se lier à quelqu'un. Donc on sera plus libre. Alors avec l'amitié, ça va encore. Mais pourquoi les gens d'aujourd'hui ont tellement de peine de, officiellement, pour le mariage, de reconnaître l'institution? Ils se lient. Je serai plus libre. Je serai obligé d'aimer, donc je n'aimerai plus. On ne voit pas que l'amour réclame la fidélité. On a peur de ça. Et pourquoi dans l'amitié, constamment, on a beaucoup de peine, l'homme a beaucoup de peine d'aimer? Parce que il aura l'impression qu'il faut porter l'autre. Et comme il pèse lourd, c'est pas commode. Comme il n'est pas commode, c'est dur. On a beaucoup de peine d'aimer. Eh bien, l'adoration vous libère de cette crainte. Parce que, étant lié à quelqu'un de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, nous aime d'une manière absolue, puisqu'il nous a tout donné. À ce moment-là, on comprend que, grâce à cet amour d'amitié, l'amour d'amitié, grâce à cet amour d'adoration, l'amour d'amitié, pour avoir quelque chose de bien plus spirituel, sera plus léger. Parce que du dedans, il restera un absolu. C'est très vrai. Il y a un absolu dans tout amour d'amitié, dans tout choix amical. On touche quelque chose d'éternel. Il y a une exigence de fidélité. On n'en a plus peur. Parce qu'on sait que cet amour d'amitié est porté par un lien plus profond qui est à l'égard du Créateur. Puisque mon ami est lui-même dépendant du Créateur. Et j'essaierai de faire comprendre. Si cet ami ne le comprend pas, je sais qu'il devra le comprendre. S'il est fidèle à l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié porte en soi un certain absolu qui conduit à Dieu. Vous voyez, l'amour me met plus proche de Dieu que ma connaissance. Et c'est pour ça que dans l'adoration, où je découvre cet amour d'amitié, où je découvre cette dépendance à l'égard de Dieu, l'amour d'amitié à l'égard même de celui qui n'est pas religieux, qui n'a pas découvert Dieu. Je n'ai plus peur de son amour. Parce que je sais qu'il y a en moi une force plus grande. Je suis relié à ma source spirituelle. Point de vue vérité, point de vue lumière et point de vue amour. L'adoration, je regarde les effets, vous voyez, de l'adoration. Ça nous aide à la comprendre. C'est quelque chose de tellement important et tellement oublié aujourd'hui. Même dans le milieu chrétien, c'est oublié. Et on sera pour l'action de grâce, le chant, très très bien, il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Mais comprenez que l'adoration, c'est une relation à l'égard de Dieu seul. Tandis que remercier, louer, ça peut se faire pour tous. On peut avoir une liturgie pour le président de la République, qui le loue, qui montre sa grandeur, qui fait qu'il y a 24 vieillards autour de lui, qui reconnaissent qu'il a fait des choses merveilleuses. Oui, on voit très bien ça. Mais on ne peut pas l'adorer. On va dire, tu es mon Créateur. Sans toi, je ne serai rien. Je disparaîtrai. Le geste de l'adoration est unique à l'égard de Dieu. C'est pour ça qu'il réalise au-dedans de mon âme spirituelle quelque chose de très très particulier qui ne peut pas être remplacé. C'est impossible, ça. Quelqu'un qui n'adore pas explicitement et qui ne veut pas adorer, humainement, il lui manque quelque chose. Il y a une dimension humaine qu'il n'a pas et qu'il n'acquérera jamais en dehors de l'adoration. Et ouais, je crois que l'adoration donne justement une stabilité à l'être humain que rien d'autre ne peut donner. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle inquiétude, une telle angoisse? On ne sait plus ce qu'on est. On n'arrive plus à se ressaisir. Il manque l'adoration. Il manque ce lien volontaire, ce choix volontaire d'être relié à celui qui est ma source. vibration va stabiliser la vie humaine et permettre à la vie humaine de découvrir sa finalité véritable. Être uni au Créateur par l'adoration me finalise. Sans doute, ils auront l'occasion de le voir. Cette adoration demande de s'achever dans quelque chose de plus grand. Une soif de contemplation. Ça, c'est sûr. Donc, l'adoration finalise dans la mesure où elle me conduit à la contemplation. Parce que l'adoration en elle-même ne finalise pas immédiatement, mais elle stabilise et elle permet d'être finalisée. C'est très frappant de voir que le manque d'adoration dans une vie fait qu'on est errant. On est errant. Alors, être errant, ben oui, c'est pas la question du milieu dans lequel on est. Non, non, c'est nous. On est errant parce qu'on n'est pas finalisé. Parce qu'on a oublié de se finaliser. Alors on est errant. Et de là, l'angoisse va naître. Il faut essayer de saisir ça. L'adoration va permettre cette stabilisation, cette netteté d'orientation dans une attitude d'abandon. D'abandon à l'égard de Dieu. Comprendre que la seule chose qui compte dans la vie, ce que les stoïciens disent admirablement, Épictète. Faut pas oublier, Épictète, c'est la grande éthique religieuse qui est très belle, qui est très forte. Limité, c'est sûr. Épictète dit nettement, la seule chose qui compte dans la vie, c'est accomplir la volonté de Zeus. La seule chose qui compte dans la vie, c'est accomplir la volonté de Dieu. Parce que si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, ça ne tient pas. Vous perdez votre temps. Et on n'a pas le droit de perdre son temps. On en ait conscience. Parce que notre temps est limité. Vous comprenez bien, je ne sais pas quand le Christ reviendra dans sa gloire. Puis je ne sais pas combien d'années je vivrai sur la terre. Et puis indépendamment de ça, je sais que ce temps qui m'est donné, il ne m'appartient pas. Dieu veut que je l'utilise pour le glorifier, pour l'adorer. Et pour aimer le prochain. Bien, l'adoration conduit à cette attitude très fondamentale de n'avoir pas d'autre désir que d'accomplir la volonté de Dieu et de l'accomplir le plus parfaitement possible. C'est bien ça l'abandon. L'abandon divin. Pas l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, c'est celui qui n'a aucune détermination dans sa vie. Alors il descend le fleuve. Il fait comme tout le monde. L'abandon divin, c'est remonter à la source et n'avoir qu'un seul désir, faire la volonté de Dieu. Accomplir cette volonté. Autant qu'on la connaît. Vous voyez, c'est pour ça que l'adoration va mettre en nous une attitude de pauvreté. L'éthique religieuse implique une certaine pauvreté. Pauvreté intérieure. La pauvreté intérieure qui consiste à remettre entre les mains de Dieu toutes nos décisions. dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, gérer notre vie spirituelle, que Dieu seul peut nous aider à la gérer. Par nous-mêmes, nous sommes incapables, et nous ne pouvons pas. Et ça, c'est très délicat et très difficile, et je crois que c'est ça qui caractérise l'éthique religieuse de l'éthique purement humaine. Dans l'amour d'amitié, il y a bien cela d'une certaine manière. Quand on aime beaucoup un ami, on veut que ce soit lui qui détermine notre vie, qui détermine les moyens, les voies d'accès pour que nous soyons heureux. Mais l'ami veut la même chose pour son ami. Dans l'amour d'amitié. De sorte que, qu'est-ce que dira l'ami ? Il dira, écoute, tu es le mieux placé pour savoir ce que tu dois faire. Fais pleinement ce qui te plaît, ce que tu aimes. C'est tout à fait normal, ça. Vous voyez, l'amour d'amitié permet aux amis